Bonjour tout le monde, merci d'avoir cliqué sur ce podcast, le racketeur Mascoutin. Je vous dis, vous allez être servis en sports hivernaux parce que ce podcast-ci prend le temps d'aller découvrir les différentes facettes de l'hiver québécois et surtout des athlètes bien d'ici. À vos écouteurs, je vous le dis, vous allez avoir beaucoup de plaisir et amusez-vous car cet hiver, on prend le temps d'aller profiter de sa cour arrière et des tapis blancs qui se retrouvent tout près de chez nous. Aujourd'hui, on fait la rencontre de Sébastien Lachance, organisateur d'événements en course à pied, père de famille, enseignant en mathématiques. Sébastien a tous les atouts pour lui permettre de rassembler les gens autour d'une même passion, la course à pied. Sans plus tarder, attachez votre tuque avec la broche. On s'en va rencontrer Sébastien Lachance. Donc, bonjour Sébastien. Très content de te compter aujourd'hui parmi nous pour cet épisode du racketeur Mascoutin. Donc, merci. Tu sais que moi, je te connais, j'ai eu la chance de participer à tes événements, surtout le Snow Energy. Mais j'aimerais ça que tu donnes la chance aux auditeurs de savoir un peu qui est Sébastien Lachance.
Ben Sébastien, c'est un grand sportif aussi, pas un grand athlète, mais un grand sportif, un amoureux des sports d'hiver, d'été, du hockey aussi. Puis ben ma formation, c'est je suis enseignant de mathématiques de formation, puis c'est comme ça que j'ai connu mon collègue avec qui on a commencé à faire des événements, qui courait déjà beaucoup des duathlons. C'était un prof d'histoire à l'école, puis à un moment donné, on rêvait de faire bouger la côte de Beaupré, puis d'organiser des événements pour notre école, puis ramasser des fonds pour les jeunes. C'est comme ça que ça a commencé. Fait que c'est un peu mon background. Je suis enseignant de mathématiques et puis maintenant organisateur d'événements sportifs.
Puis l'amour du sport a sûrement commencé sûrement dans ta jeunesse. Qu'est-ce qui t'a titillé en premier? C'était-tu plus le hockey comme tu as mentionné ou t'as accroché avec d'autres sports avant ça?
Oui, j'avais un papa quand même exigeant là, au niveau de l'entraînement. Là. Il voulait vraiment que je me prépare. J'étais un hockeyeur, un gardien de but bien moyen. Mais avec l'entraînement, je réussissais à aller chercher des quand même des bons niveaux de jeu. Puis après ça, ben quand j'ai arrêté de jouer au hockey vers 17 ans, je me suis dit que je pouvais pas rien faire. Je me suis même entraîné en musculation, continué à travailler dans le monde du hockey. J'ai même fondé la première école de gardien de but à Québec. Fait que ça, puis mon associé après ça est parti en Suisse. On a continué à la faire en Suisse pendant plusieurs années. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré une fille qui courait. Et puis, l'amour de la course à pied et de elle est venu en même temps. Puis, on a commencé à courir des événements. Puis là, ça a changé ma vie. Là. C'était l'adrénaline, le plein air. J'ai adoré ça. Puis après ça, il est venu le temps de faire partager ma vision de ça en les créant moi-même. Puis de manière festive surtout.
Puis cette passion-là de vouloir un peu redonner à la communauté ou à la jeunesse en créant des événements, c'est avec ton collègue à l'école que c'est né ou tu avais déjà un peu cette idée-là ou cette envergure de faire « moi j'aime ça organiser des événements depuis que tu étais tout petit »
Non, pas du tout. C'est un peu bébête, tu sais, comme il y a bien des choses qui commencent drôlement. Là. C'est qu'on avait créé, on commençait à courir pas mal, les profs avec les élèves à l'école, puis on a créé un club sportif qu'on appelait Kilomax. Le nom de mon organisation maintenant, puis on voulait m'emmener s'acheter du linge de course, puis les broder Kilomax, puis à un certain moment donné, bien, on s'est ouvert un petit compte de banque, puis il y avait les frais de compte qui passaient, fait qu'on n'y arrivait pas. Alors, on a dit, bien, une fois par année, on va organiser une course, puis pour l'école, dans le coin ici, là, peut-être 200-300 personnes, puis avec ces fonds-là, ça va nous permettre de subventionner des clubs de course à l'école. Sauf qu'au lieu de venir 200-300 personnes, il y en est venu 900. À notre première édition, c'était notre course du printemps, le tour du Cap Tournant de Simard à Saint-Joachim. Puis après ça, ben il y a le Mont-Saint-Anne qui nous a tiré l'oreille pour aller faire une course à l'automne dans les couleurs. Puis après ça, il y a le Snow Energy qui est arrivé durant l'hiver. Donc, bonhomme allant, ça fait 9 ans là, maintenant qu'on roule avec principalement ces trois événements-là. Puis maintenant, bon, on a une belle collaboration aussi entre organisateurs d'événements. Fait qu'on va aider d'autres courses à bien fonctionner.
En fait, quand on grandit de fois en fois, puis on devient un pilier, une référence, c'est tant le fun de voir un peu comment on peut amener de plus en plus loin notre projet pour donner une expérience incroyable, autant que ce soit à monsieur, madame, tout le monde, coureurs du dimanche, que les athlètes d'un peu de haut niveau, parce qu'à Québec, on s'entend, les endroits où vous êtes, C'est incroyable le paysage qu'il y a. Vous avez un terrain de jeu superbe. Je suis un peu jaloux de l'endroit où est-ce que vous organisez le tout. Mais à la base, Kilomax, est-ce que tu voudrais nous en parler un peu plus? Parce que c'est vraiment quand même un bon mouvement, ça, cette organisation-là.
Oui, puis ça a né vraiment de rien là, autour d'un souper avec deux de mes collègues. Puis on a parti ça comme ça. C'est un club de course. Puis comme je disais, ça a vraiment parti de façon bête. Puis la raison pour laquelle on a organisé notre première course, c'est un endroit où on allait souvent faire des intervalles à Saint-Joachin. C'est plat. C'était facile, c'était un beau terrain de jeu, c'était pas très loin de l'école, puis on trouvait que c'était magnifique. Là. Il y a la réserve du Cap Tourmente qui est là, il y a les oies blanches, il y a le Cap qui est magnifique. Alors, on voulait faire découvrir nos terrains de jeu préférés. Fait qu'on dit, crime, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de course à cet endroit-là, puis qu'il n'y en ait pas du tout sur la côte de Beaupré. Fait que c'est comme ça qu'on a fait notre première course. Puis la deuxième à l'automne, ben, c'était au Mont-Saint-Anne. Encore une fois, c'est un endroit où on allait courir les midis. Le sentier Jean-Larose qui borde la rivière Jean-Larose, c'était magnifique. C'est un parcours linéaire. Fait qu'on a fait notre première course là, puis il est venu tout de suite 500 personnes la première année. Puis là, ben, jusqu'en 2019, où est-ce qu'on accueillait 2000 personnes. Mais comme tu dis, Julien, c'est un super terrain de jeu. J'étais en amour avec mon milieu. J'étais en amour aussi avec d'autres milieux comme Tremblant, puis bien des places. Là. J'aime beaucoup la nature, mais on est quand même choyé d'avoir une belle montagne et un beau coin comme ça, là, si près du château de Frontenac. Là.
Puis en ayant la chance de bâtir des événements comme ça, si on part de A, là, on veut commencer du début, là, qu'est-ce que les gens qui aimeraient construire ou du moins mousser un événement de course à pied, que ce soit l'été, l'hiver ou autre, la saison qu'ils leur préfèrent, qu'est-ce que ça prend pour bien partir une organisation comme ça?
Ben, nous, l'erreur qu'on a fait au début, c'est de tout faire nous-mêmes. Puis tranquillement, pas vite, on a compris qu'il fallait s'entourer si on voulait garder du plaisir à faire ça, parce que c'est pas juste de mettre une plateforme en ligne, puis après ça, d'attendre 6 mois, puis une semaine avant, on va mettre des pancartes. C'est loin d'être ça, surtout là maintenant. Ce que je ferais, si je partais à zéro, c'est que je demanderais à quelqu'un qui en a déjà organisé ou qui a cette expertise-là, soit un monsieur avec une certaine expérience, de m'aider à prendre les bons chemins, de prendre les raccourcis, c'est-à-dire de bien s'entourer, trouver surtout les bonnes personnes aux bonnes ressources. Quelqu'un qui va être capable de gérer toutes les demandes au niveau des inscriptions, c'est énorme, là, tous les transferts, les annulations, les changements de distance, les questions qu'on a à propos de la course. Il y a des petites plateformes aussi. Quelqu'un qui est habile en informatique va être capable de construire un site web pour à peu près rien, là, avec des plateformes comme Wix, des choses comme ça. Fait qu'une puis qui s'associe aussi avec une plateforme d'inscription en ligne. Il y en a déjà un paquet là, il y a Eventbrite, il y a Events. Fait que c'est d'avoir un peu d'expertise autour de soi, puis aussi de savoir comment s'y prendre aussi, parce que maintenant il y a quand même pas mal d'événements de course, alors c'est facile de mettre des énergies dans le vide puis d'arriver au final puis c'est ça, puis pas avoir les résultats escomptés. Fait que si j'avais à donner un conseil, c'est d'aller vous chercher un mentor qui pourrait vous aider. Ça peut juste être un petit conseil, un téléphone une fois ou deux semaines, une fois par mois, ou un accompagnement plus intense, mais d'aller chercher de l'expertise pour être capable de prendre les raccourcis qu'il faut, puis pas tout faire soi-même, puis de se brûler comme on a fait les premières années.
Puis avec les événements, tu touches quand même différents milieux. Tu as des courses un peu plus sur route, courses en sentier, courses d'organisation l'hiver. On sait que le podcast du Racketeur touche davantage les sports hivernaux. On sait que Dame Nature, l'hiver, est un peu plus capricieuse. En gros, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier dans la liste des choses, des éléments importants pour l'organisation d'un événement qui se déroule l'hiver?
Bien, l'hiver, moi, il y a deux points majeurs à lesquels que je tiens énormément. C'est un endroit chaud qui va être capable d'accueillir tous les genres de température. S'il fait très, très froid, là, à ce moment-là, il faut penser que les gens vont vouloir aller à l'intérieur. Fait qu'un endroit chaud qui est réconfortant, qui est plaisant aussi, qu'on n'est pas tous entassés, c'est pas juste une grange avec rien. Donc, quelque chose qui va être agréable pour les gens quand une fois qu'ils vont être à l'intérieur, avant et après leur course. Parce qu'il faut penser aussi qu'il y a toute la distribution des dossards, la distribution d'un paquet de choses, une cérémonie des podiums. Il faut avoir un espace pour ça. La deuxième chose, puis ça aussi on a payé le prix les premières années, c'est d'avoir une méthode pour entretenir les sentiers. Cette année, en 2020, on a eu la malchance d'avoir la plus grosse tempête de neige de l'année. La veille de notre course, Alors, j'étais très content que les gens de l'organisation du Mont-Saint-Anne avaient les machines pour aller repasser deux, trois fois dans les sentiers. Malgré tout, ça restait mou, mais il restait qu'on ne voit pas, parce que c'est des kilomètres et des kilomètres. Là. Donc, à moins de faire une boucle d'un kilomètre puis tourner 10 fois, si tu veux rendre quelque chose d'intéressant, quelque chose qui varie beaucoup, ben à ce moment-là, il faut avoir la machinerie pour aller entretenir les sentiers parce qu'on ne sait jamais dans quel état ils vont être. Pour te faire une anecdote aussi, il y a 2 ans, quand tu es venu, Julien, personne ne le sait, mais ça faisait 3 jours qu'il y avait un orignal avec ses bébés qui étaient parqués dans le milieu de notre sentier, une place où il fallait passer absolument. Puis on avait de la misère à le tasser parce qu'il protégeait ses enfants, évidemment, les petits bébés orignaux. Alors, c'est des genres de problèmes qu'on peut pas anticiper. Alors, ce qu'on peut contrôler, au moins au niveau des parcours, faut y penser.
Ah, définitivement. Sinon, on se ramasse à pelleter à la main des grandeurs inimaginables, puis ça se fait pas, là. Donc, de bien s'entourer de gens qui ont du matériel, c'est vraiment un must, comme on dit.
Oui. On a juste à penser au vent aussi. Le vent va t'amener des imprévus, alors il faut vraiment aller refaire un petit tour. Il y a des grands vents la veille de l'événement, mais il y a peut-être des arbres qui sont tombés dans le sentier. C'est des imprévus, mais ce qu'on contrôle, en tout cas, on peut essayer de l'éviter.
Puis surtout aussi tout ce qui est qui concerne ou qui entoure l'appareillage électronique et tout ça. L'hiver, on s'entend des fois qu'à moins 25, ça ne veut pas toujours fonctionner les consoles. Donc ça, c'est un objectif qu'on doit toujours réussir à colmater des fois au dernier instant ou faire avec ce qu'on a ou les moyens du bord.
Oui, effectivement. Là, les premières années, on écrivait les résultats à la main pour le Snow Energy. On n'avait pas beaucoup de monde puis on n'avait pas les moyens d'engager une firme comme Sportstat. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris des crayons à l'encre. Quelle erreur! Alors, l'encre, ça allait geler, puis là, on n'était plus capable d'écrire. Alors, on courait les crayons de plomb en même temps que les coureurs arrivaient, qu'il fallait prendre les numéros à la main puis les temps. Fait que c'est toutes sortes de petits trucs qu'à un moment donné, quelqu'un d'expérience te dit de pas faire.
Ah, définitivement. C'est faut le vivre pour après ça dire « Ah, finalement, c'était peut-être pas la meilleure chose, puis on va se reprendre pour la prochaine fois parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. » Puis une année, ça fonctionnait. Puis l'année d'après, bien, on se rend compte que finalement, oups, cet élément-là, on était chanceux l'année d'avant. Puis faut rectifier. Des fois, juste les places de stationnement qu'il faut déneiger ou trouver une façon de faire en sorte que nos balises de chemin, ils restent quand même sur place parce que des gens, des bons citoyens, des fois, qui s'amusent à enlever les petits cônes ou les drapeaux parce qu'ils pensent bien faire, mais on n'a plus de sentier 1 heure avant la course, donc c'est pas toujours évident.
Exactement, exactement. C'est pour ça que ça prend des bonnes ressources. Notre directeur de parcours, il est extraordinaire pour ça parce que je pense que après ses enfants, ce qu'il aime le plus, c'est ses parcours. Alors, il les flatte, il va les voir, il les regarde, il veut faire triper les coureurs, il fait des petites attentions un peu partout. Fait que ça prend des passionnés à tous les niveaux, puis ça fait que ça rend l'expérience agréable pour les coureurs.
Puis en ayant une organisation qui est du moins assez solide, ça permet d'avoir certains championnats ou du moins porter des créneaux pour certains événements dont vous avez eu la chance au début quand vous avez commencé en course en raquette d'avoir le championnat provincial suivi du championnat canadien l'année passée. Comment on fait de fil en aiguille pour réussir à bâtir quelque chose qui peut avoir une certaine prestance par rapport aux autres événements? Parce que des fois, quand on nomme une course versus une autre course, les gens font « Ah, cette course-là, c'est venu chercher à mon cœur » ou du moins, c'est des valeurs qu'on aime repousser puis on sait qu'avec certains événements, on gagne la confiance des gens ou on la perd totalement. Donc, comment on fait pour réussir à avoir quelque chose de qualité sans nécessairement débourser des millions, comme on dit?
Oui, parce qu'au début, on les a pas les millions, puis on les a pas encore de notre côté non plus. Ben, en fait, nous autres, ça s'est bâti avec le temps. La confiance des coureurs qui nous suivent, puis aussi la confiance d'organisation. Quand on parle du Snow Energy, c'est la confiance du Mont-Saint-Anne. Alors, on a le Snow Energy qui est là, puis on a le défi des couleurs, puis les premières années, la confiance du Mont-Saint-Anne envers nous était très fragile, parce qu'on c'est une montagne qui est réputée un petit peu plus pour le vélo. Alors, ça dérangeait d'envoyer des coureurs dans des sentiers. Alors, on avait beaucoup de contraintes, mais d'année en année, à force de faire des beaux événements, de se ramasser après, de laisser les milieux intacts comme il était avant qu'on s'installe, qu'on fasse notre course, la confiance s'est installée. Puis c'est comme ça, à un moment donné, que Snowshoe Canada, en cherchant un endroit dans l'est du Québec, a contacté le Mont-Saint-Anne. Puis tout de suite, à ce moment-là, la confiance du Mont-Saint-Anne envers notre organisation s'est reflétée parce que tout de suite, ils nous ont contactés disant qu'il y avait un certain M. Robinson qui cherchait des organisateurs de courses. Puis c'est comme ça qu'on l'a eu. Puis tranquillement, pas vite, le championnat provincial s'est bien déroulé. Snowshoe Canada a voulu qu'on organise le Canadien, puis si ça n'avait pas été de la pandémie cette année, M. Robinson aurait voulu qu'on organise encore le championnat canadien. Malheureusement, ça ira une autre année, sauf que c'est un peu comme ça qu'on bâtit, je pense, la confiance, ça vient, c'est un peu comme en amour, je pense, ça vient pas du jour au lendemain, il faut quand même faire ses preuves, là.
Des fois, il y a un sujet qui revient souvent là, quand on aborde un sentier qui est plus naturel comme une montagne, souvent que c'est restreint un certain nombre de coureurs pour l'impact qu'on fait sur le niveau de l'environnement. Là, on gère un effet des fois qu'on a un succès puis les gens veulent participer davantage à notre événement, mais en même temps, on a une certaine conscience écologique ou du moins un aspect de faire attention à la nature. Comment est-ce qu'on réussit à trouver un juste milieu avec tout ça?
Ça, c'est vraiment... Écoute, c'est pas parfait, là. Nous, on essaye de conscientiser les gens le plus possible à ça en leur disant que si on respecte pas ça, puis, ce qui va se passer, c'est qu'on pourra plus. À un moment donné, il va tout le temps falloir varier les parcours, puis la confiance va s'effriter. Tout est une question de confiance. Donc, je vous dirais que les coureurs en nature sont habituellement très, très, très respectueux de la nature. Ils veulent que ça reste beau. Ils veulent pas tirer leurs déchets tout partout. Ils font attention. L'automne comme l'hiver, je pense pas que des espadrilles, ça démolit, tu sais, ça brise beaucoup les sentiers. Là, il y a des vélos qui font pire, sauf que il y a toujours les déchets humains, des choses comme ça, on tire un gel à terre, des choses comme ça. Mais je vous dirais qu'à date, dès qu'on conscientise un peu plus les coureurs de garder la nature intacte, puis qu'il faut que ça reste beau comme ça, à date ça marche bien. Fait qu'on dirait qu'il y a une éducation naturelle au niveau des coureurs puis des marcheurs aussi en nature.
Puis, quand on organise quelque chose, il y a tout le temps son lot d'anecdotes. Tantôt, il y avait l'histoire de l'Orignal. Y a-t-il d'autres événements ou d'autres choses quand même cocasses qui sont arrivées avec une organisation d'une des courses, soit que ce soit au niveau Kilomax ou les courses plus à l'automne en sentier?
Oui, bien, c'est une anecdote, mais nous, on l'a trouvé pas drôle quand c'est arrivé. Je pense que c'était à notre troisième année au Cap Tourmente. On avait fini tout installé et on allait se coucher. Il était rendu 11h le soir, puis à 2h du matin, il y a eu une tornade sur le site. Alors là, il y avait des tentes. Encore une fois, avec notre inexpérience, on n'avait pas mis du poids sur toutes les tentes. Alors, il y a des tentes qui étaient rendues sur des toits de maison. Heureusement, il n'y a rien qui a brisé autour, sauf que tout était démoli. Fait qu'il a fallu appeler tout le monde qu'on connaissait pour tout remonter ça avant que les coureurs arrivent. Fait que personne n'a rien vu, mais on n'a pas entendu. En tout cas, on a traversé une tornade épouvantable la veille de l'événement. Puis je vous dirais que dans mon deuxième top 3, c'est vraiment cette année avec le Snow Energy, avec la tempête monstre qu'on a eue, qui s'est terminée dans la nuit. Puis le lendemain matin, 8h, il fallait envoyer des coureurs là, partout, donc refaire les sentiers, remonter le site, etc. On pouvait pas, c'était impossible. D'habitude, une arche, des choses comme ça, on monte ça 24 heures, 48 heures à l'avance, parce que c'est des choses qui sont extrêmement lourdes, il faut être plusieurs, il faut les tapisser de commanditaires, c'est long. On ne peut pas commencer ça à 7h30 quand les coureurs arrivent à 8h, mais là, il a fallu le faire.
Ah non, c'est pour avoir pris 8h pour passer de Sherbrooke à Québec. Je conviens qu'il y avait pas mal de neige sur la route, puis c'est sûr que parfois, la nature est très capricieuse, mais ça fait en sorte qu'on se rend compte que la solidarité entre coureurs et organisateurs, on voit que les gens sont capables de quand même se donner un petit coup de pouce pour se rendre malgré tout avec une fin à cette aventure-là.
Oui, les conditions étaient vraiment parfaites pour la course en raquette cette année, en tout cas.
Puis sinon, en ayant un mouvement comme social comme ça, je ne sais pas, est-ce que tu as des enfants? Tu as une famille plus...
Oui, j'ai un petit gars de 2 ans puis une petite fille de 6 ans.
Est-ce que ces valeurs-là, c'est quelque chose que tu souhaiterais leur donner ou du moins les encourager à aller dans cette direction-là de vouloir soit organiser des événements ou du moins prendre en charge leur santé avec l'activité physique?
Oui, ton deuxième point le plus important pour le mien, je ne sais pas s'ils vont avoir la même passion que moi de l'énergie dans l'organisation d'événements, mais de s'imprégner de ça, puis de surtout de s'imprégner de manière agréable à tous mes événements. On est, sauf cette année, on est entre 12 et 16 personnes de la famille qui descendent de partout, de Sherbrooke, de partout, puis qui viennent courir. Mais mon père a commencé à courir à 61 ans. Mon beau-père aussi, qui court encore un demi-marathon à 66 ans. Ils viennent, ils ont commencé parce que je m'impliquais là-dedans. Fait que ce qui se passe, c'est qu'à la fin de tout ça, tout le monde est content. Puis là, on arrive à la maison, puis on accroche nos médailles. sur le lustre. Puis là, on se fait une bonne bouffe, toute la gang, y compris les médailles des enfants. Fait que tout le monde est fier d'eux autres, puis ça finit toujours dans une fête. Donc, moi, c'est ça que je veux imprégner. On met ce qu'il faut, tu sais, dans les courses des enfants, on met de la mousse. On essaye de rendre ça agréable. On essaye de rendre l'expérience d'après-course le fun aussi, toujours avec une bonne bouffe. L'hiver, au Snowenergy, on sert du vin chaud, du chocolat chaud, tu sais, rendre l'expérience vraiment agréable, que le sport, c'est pas juste, ça fait pas juste mal aux gens. T'sais. Ça peut être le fun avant, ça peut être le fun après, on peut être fier de nous. Fait que c'est une expérience, c'est pas juste un petit jogging de 5 km. Fait que ce que je veux inculquer à mes enfants, c'est que oui, puis que ça leur reste dans le sang, qu'ils restent imprégnés de ça. Je fais même exprès, des fois, on fait des jeux dehors, ils font des courses, puis je sors le klaxon là, que j'utilise pour le départ de mes courses. Fait que ça, c'est un bruit là, qui va les marquer.
Ouais, définitivement. Puis saisir les voisins également, mais sinon, ouais, c'est ça. Ça attire l'attention de plusieurs, mais je trouve ça vraiment magique de vouloir partager du moins une certaine qualité de vie, à prendre goût à bouger, parce que les jeunes, de plus en plus, on parle sédentarité, obésité, des trucs comme ça, mais on axe souvent sur la performance, il faut avoir des standards, puis en éducation physique, mais juste le fait de bouger, peu importe ce qu'on fait, puis on prend plaisir, bien souvent, ça reste plus longtemps, parce que souvent, on rencontre des athlètes de haut niveau que après un certain âge, quand ils ne performent plus, ils arrêtent de bouger ou ils arrêtent de faire leur activité. Moi, ça me brise tout le temps le cœur en mille miettes, mais de vouloir donner une certaine vision aussi ouverte d'esprit que ça, je trouve ça vraiment une belle action.
Oui, oui, puis en parlant de voisins, justement, oui, ça les dérange avec mon klaxon, mais ce qui se passe, en tout cas, en temps de pandémie, il y a toujours du positif, c'est que tout le monde s'est mis à courir dans ma rue, justement, pour garder l'équilibre, bouger, aller dehors, pour faire d'autres choses que des bonhommes de neige avec les enfants. Puis ça fait que, ben, pour 2021, il y a beaucoup de mes voisins qui vont venir, puis qui vont dire, hey, on va aller courir à ta course, mais c'est le fun, parce que c'est des gens, comme la plupart d'ailleurs, qui aiment ça courir, mais ils aiment ça courir au niveau social aussi. Le party après-course, le partage durant la course, l'anxiété d'avant-course, la préparation, fait qu'ils s'entraînent actuellement, fait que c'est le fun. Fait que j'ai l'impression de créer quelque chose de positif, en tout cas autour de moi, puis tant mieux.
Définitivement, il en faut des vecteurs qui amènent de l'énergie comme ça au quotidien, puis c'est ce qui fait en sorte que les gens, je pense, vont avoir le goût de sortir puis d'aller explorer les paysages puis les petits côtés cachés des fois qu'on a dans notre ville puis qu'on oublie des fois que c'est juste à côté de chez nous, ces forêts-là, ces régions-là sur le bord de l'eau, des cours d'eau, que des fois on oublie que waouh, on s'arrête un instant puis c'est magnifique. Hein.
Combien de fois là, on va visiter des coins, comme tu dis, proches de chez nous puis on se dit après, pourquoi qu'on vient pas plus souvent?
Ouais, définitivement. Puis en étant enseignant, puis voir des fois des activités avec le corps professoral, de bouger, faire l'activité physique. Qu'est-ce que tu trouves que ces mouvements-là apportent comme dynamique, soit au sein d'un groupe ou d'une école, de se rallier à faire soit le kilomax ou de juste aller faire des activités de club de course dans une école?
Bien, je trouve que ça amène une vie, puis une vie positive. Moi, j'ai la chance, puis je vais dire la malchance, d'être le doyen de mon département. Ça veut dire que l'âge avance. Mais c'est que j'ai la chance de pouvoir choisir un peu mes groupes. Moi, c'est certain, comme enseignant de mathématiques, j'aime toujours aller chercher les groupes sport-études, soit ski, hockey, on a ça à notre école, parce que je trouve qu'il y a un dynamisme, mieux une vie, il y a une compétitivité aussi intéressante au sein de ça, puis je trouve que ça amène juste du positif. Puis après ça, bien, quand tu essaies de leur inculquer, leur dire que là, les maths, c'est comme l'entraînement, c'est pas vrai, il faut que tu sois toujours dans le fond parce que tu vas t'épuiser, mais c'est comme il y a des pics importants. Donc, autant dans tes études qu'en sport, il y a des moments où il faut que l'intensité monte si tu veux générer de la performance. Autant aller aux examens que dans le sport. Donc, l'allusion est vraiment importante. Puis moi, je leur dis souvent, écoutez, moi, je suis votre coach. Je vais vous le dire quand est-ce qu'il faut aller vite, puis fort, puis quand il faut ralentir pour se reposer. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup d'allusions avec le sport, puis le sport d'équipe aussi. Fait que c'est ça que je trouve de vraiment très positif. Ça a un effet aussi très positif au niveau du travail d'équipe dans le milieu des affaires puis dans le milieu professionnel de monsieur et madame tout le monde.
Non, non, c'est sûr. Puis ça doit être un peu du moins gratifiant de voir après ça quand les petites étoiles dans l'élève fait en sorte que la confiance peut-être est plus étroite ou que l'élève se sent un peu compris dans son aventure de parce qu'une année scolaire, c'est comme quasiment un ultra-marathon. Tu pars au début de l'année, puis après ça, tu as différentes étapes, puis de voir qu'on est encadré un peu Moi, j'aurais aimé ça d'avoir l'aspect sportif en jumelé par rapport à tout ça. Puis, je suis certain que ça va quand même rechercher pas mal de tes élèves. Donc, je trouve ça, c'est une belle vision à leur apporter parce que les mathématiques, c'est pas tout le temps évident pour tout le monde. En étant un peu un côté ludique dans la performance sportive en allusion, je trouve que c'est un beau vecteur.
Oui, parce que les périodes de détresse, souvent, sont très intenses à l'adolescence. Puis, on leur dit que la détresse, il y en a aussi à la course, il y en a dans le vélo, il y en a partout, mais quand tu passes à travers puis tu finis à la ligne d'arrivée, t'es content. Puis tu dis finalement, c'était pas si pire, mais quand j'étais dedans, c'était la fin du monde. J'étais au bout de mes ressources.
En organisant des événements qui rassemblent autant de gens que ça, tantôt tu parlais de ton collègue, il tapissait ses courses en étant quasiment sa deuxième chose qu'il aimait le plus dans la vie. Y a-tu des gens que tu as rencontrés dans ton parcours que soit que tu voulais souligner leur rapport dans ton aventure d'avoir créé des événements ou qui ont été marquants pour toi?
Dans les personnes marquantes, c'est surtout celles qui m'entourent actuellement. C'est tellement intense qu'on développe tellement de complicité incroyable. Là, le directeur de parcours dont je parle, c'est Frédéric Bourque. Fait qu'on veut pas, ça va plus loin qu'une simple collaboration de travail. C'est de l'intensité, c'est de la passion. J'ai des gens extraordinaires puis des bénévoles extraordinaires. J'ai malheureusement pas eu la chance d'avoir un mentor parce que j'ai pas eu ce feeling-là d'aller vers quelqu'un. Mais tu vois, dernièrement, là, cette année, l'année dernière, j'ai parlé avec Patrice Demers quelques fois. Donc, fondateur de Gestev, qui organisait les Red Bull Crash Test et tout. Puis là, ben, présentement, cette année, on travaille avec sa conjointe qui a bâti tous les plans de partenariat, de visibilité, qui nous mentore maintenant. Donc, même après 9 ans, on était chercher des gens qui ont plus de bagages que nous pour sortir de la boîte. T'sais, on dit souvent « think outside of the box », de sortir de la boîte. Nous, des fois, on est trop dedans. Fait qu'on voit pas, on n'est pas capable de voir des fois des opportunités ou des choses. Fait qu'ils viennent nous aider pour voir des choses différemment. Fait que il y a beaucoup ces deux personnes-là actuellement. Mais il y a Marie-Michel Gagnon, tu sais, qui est mon bras droit, qui gère toute la partie inscription, bénévole. C'est des gens qui sont marquants, qui m'ont marqué, parce que sans eux autres, on n'est pas capable de livrer. On peut pas faire ça en un ou deux. C'est absolument impossible. Puis quand on a une équipe de bénévoles, puis de non-bénévoles aussi, qui sont tous des passionnés, que tout le monde veut que ça marche. Tout le monde sait que même la personne qui est à 42 km dans la montagne, si elle fait une erreur et n'envoie pas les coureurs au bon endroit, ben malheureusement, l'expérience coureur n'est pas le fun.
Ah, définitivement. Puis de plus en plus, trouver des bénévoles en organisant aussi, moi, de mon côté aussi, des événements. Comment tu fais pour amener un peu cet esprit de famille-là, garder tes bénévoles, aller en recruter d'autres, parce que sans les bénévoles, on s'entend, toi puis moi, que c'est impossible d'organiser une course parce que ça reviendrait à des sommes astronomiques, là.
Non, ce serait impossible, puis il faut les flatter, faut vraiment les gâter, les flatter, puis il faut pas que ce soit lourd, hein. T'sais, les autres, ils viennent pour s'amuser, ils viennent pour rendre service. Fait que il faut vraiment là être dans la bonne humeur. Puis je parlais de ma collègue Marie-Michel Gagnon. Tu sais, c'est Madame Sourire là, avec les bénévoles. Ils viennent même pas pour l'événement, ils viennent pour elle. Tu sais, pour lui rendre service. Puis c'est vraiment ça. Ça prend vraiment une chef d'équipe qui a un beau leadership, puis aussi un bel événement, qui a une belle réputation, en tout cas qui a des belles causes. Tu sais, puis il faut aussi s'occuper d'eux autres, les bénévoles, leur dire qu'on les remercie, leur donner des cadeaux, Ils en donnent tellement pour nous, puis c'est grâce à eux aussi que tout marche super bien. Mais oui, effectivement, c'est pas facile de recruter. Fait que chaque bénévole est priceless.
Puis, si on avait à faire peut-être qu'un top 3 des choses qu'on devrait absolument pas oublier de mettre sur sa liste dans une organisation d'un événement, qu'est-ce que tu suggérerais aux gens?
Pour l'organisation d'un événement, tu dis?
L'organisation, ça général, mettons, je te donne un exemple. De un, trouver la date, puis ainsi de suite, de voir un peu qu'est-ce qui serait intéressant à mettre de l'avant le plus possible.
Ben encore là, moi, j'ai encore la vision bien s'entourer. Ce serait vraiment d'avoir peut-être un mentor. Deux, un passionné de parcours, quelqu'un qui va être habile, qui va être capable, mettons, de réparer quelque chose vite fait. Ça prend des gens en forme, absolument, parce qu'il faut être en forme. Puis peut-être une troisième personne qui va être très habile en informatique. Parce qu'on veut pas, si on veut que ça marche, tout passe par là. Les inscriptions, la publicité, la gestion de la comptabilité brute. Fait je dirais, ça prend vraiment là, peut-être un mentor qui va globaliser. Après ça, quelqu'un qui va vraiment être excellent sur le terrain, avoir des yeux tout le tour de la tête, gérer une équipe. Puis une troisième personne qui va être capable vraiment là, de tout prendre en charge sur le web. Parce qu'au niveau des dates, puis au niveau du lieu, des choses comme ça, c'est sûr que les dates sont importantes. Là. Ça a souvent été la critique qu'on faisait au marathon des deux rives à l'époque, là, que c'était en plein mois de août. J'ai fait mon premier marathon, il faisait 36, là. C'était épouvantable. Mais c'est sûr que les dates, mais ça, évidemment, tu peux avoir une belle date, mais pas être bien organisé. Alors, ça, je pense que c'est bien important. S'il y avait une quatrième affaire, ben je pense qu'un mentor peut amener ça aussi, c'est d'avoir une liste de fournisseurs. Tu n'as pas besoin de courir après des fournisseurs. Ça, c'est important. Ça en prend énormément. C'est un milieu où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens salariés. Là, on travaille beaucoup avec des travailleurs autonomes puis une multitude de fournisseurs. Puis des fois, ben on fait l'erreur de prendre le fournisseur le plus proche ou le... Fait que des fois, au niveau des fournisseurs, il y a une gestion des coûts là, qui va être importante. Fait que c'est d'ailleurs, quand j'ai parlé à Patrice Demers, il m'a dit, si tu veux que je t'aide, il y a tous les raccourcis possibles dans les meilleurs fournisseurs possibles avec des bons prix et de la belle qualité.
Non, c'est certain que ces quatre points-là vont faire en sorte qu'on se rapproche du moins d'une expérience autant d'organisation que de coureurs, que de communauté qui risque d'être quand même sur la coche, comme on dit.
Oui, effectivement.
Puis moi, ce que je trouve tout le temps magique aussi en organisant des courses, c'est souvent on reste un peu marqué par des gens qu'on croise en termes de participants, des fois, comme tantôt, comme t'expliquais que c'est la famille, tout le monde se rencontre pour faire un petit souper ensemble, voir les médailles, puis ressortir les points qui ont eu du plaisir dans la journée. Y a-tu des expériences ou des gens que tu as croisés qui venaient de sortir, je sais pas moi, d'un problème de santé quelconque, qui se revoyaient depuis plusieurs années puis se sont donné un défi? Y a-tu des expériences ou de gens, des histoires comme ça qui t'ont un peu touché à travers tes événements?
Oui, il y en a eu plusieurs. C'est comme... on dirait que la course événementielle comme ça, c'est un lieu pour avoir une victoire. C'est des gens, des fois, ils vivent des catastrophes, même émotionnelles. Ils prennent du poids ou ils ont des problèmes, puis ils se donnent un défi sportif, puis ça régularise tout le reste de leur prochain mois. Puis en le réalisant, c'est comme « yes, j'ai réussi mon défi ». Mais oui, il y a eu des expériences, là, des gens qui ont eu des opérations cardiaques. J'ai une amie, justement, là, qui est très, très proche, qui a le cancer. Fait qu'elle faisait des ultras, elle était sur des championnats mondiaux de Spartan Race. C'est une fille de 33 ans, là. Fait que là, elle a deux cancers du sein, tout est arrêté. Elle, quand elle va reprendre ses espadrilles, puis qu'elle va venir au défi des couleurs, elle va embarquer sur le 42, ça va être une victoire. Ça, des histoires de même, il y en a qu'on connaît, puis il y en a qu'on connaît pas, mais je sais très bien là, qu'il y a un paquet de monde là, qui vivent de ça. Puis des fois, j'en apprends, c'est toujours touchant, là. J'en apprends après. C'est des gens qui me disent, parce que des fois, on est découragé, on est fatigué, on dit, Caroline, c'est donc bien d'énergie organiser tout ça. Puis, je veux dire, ça prend juste un commentaire de quelqu'un qui vient dire, hey, moi, j'ai commencé à courir grâce à vous autres en 2013. Puis après ça, bien, toute la famille a suivi, puis ça a changé leur vie. J'ai la plus belle histoire, je pense, c'est je restais dans un jumelé, puis ma petite fille, à l'époque, elle avait un an, elle se faisait garder juste à côté de chez nous, puis eux commençaient à courir, puis il y avait une autre maman qui venait porter leur enfant là, puis ils ont commencé à courir aussi, sans que je le sache, autour du Cap Tournant. Puis ça a tellement marqué leur vie, parce qu'après ça, toute la famille a suivi, puis maintenant, elle court des marathons. C'est que l'année dernière, ils se sont mariés à Saint-Joachim, sur le site de course.
Wow!
Donc, ils ont fait leur mariage à l'extérieur, exactement où est-ce qu'ils ont couru la première fois.
Ah non, j'en ai quasiment la chair de poule de voir qu'on des fois des gestes qu'on pense plutôt banals peuvent avoir une portée aussi grande que ça. C'est quand même c'est impressionnant. Ouais,
c'est beau, hein?
Oui, vraiment. Ouais. On peut rallier des gens, un, à une santé qui va perdurer vu que maintenant les deux doivent sûrement aimer la course. Puis après ça, de voir qu'ils ont eu un lien d'appartenance vers le premier amour qu'ils ont eu qui était la course, je trouve ça vraiment magnifique.
Ah, c'est vraiment touchant. Il y a des gens qui sont marqués plus qu'on pense des fois, puis ça nous garde, ça nous donne l'énergie en tout cas de continuer à travailler fort pour ça.
Donc, on arrive quasiment à la fin de l'entrevue. Je termine tout le temps avec un petit segment où est-ce que je mets soit des questions ouvertes ou des petits éléments que je mets en contradiction, puis tu dois trancher entre les deux lesquels que tu aimerais choisir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puis on va s'amuser avec ça. Ça te convient?
Oui, je sais pas si je vais aimer ça, mais ça me convient.
Si tu avais une prochaine organisation à faire d'un événement, quelle saison que tu choisirais d'organiser le tout?
L'automne.
L'automne. Est-ce une raison particulière ou...
les feuilles, les couleurs, j'adore l'automne. C'est c'est toute la fin d'entraînement intense de l'année qu'on dirait qu'il paye. Hein?
Ah non, c'est sûr, c'est magique. Puis sinon, si tu avais à choisir un sport d'hiver que tu voudrais de développer ou du moins découvrir davantage, ce serait quoi?
Très bonne question. Peut-être le ski de fond.
OK. Aventure en famille ou du moins de s'avancer pour le plaisir ski classique, patin ou...
Ouais, ben les deux, ski classique et patin, peut-être classique. J'aime beaucoup les sentiers dans l'hiver avec la grosse neige sur les branches, puis c'est plaisant, puis ça va chercher un peu l'adrénaline, mais en tout cas l'euphorie que j'ai à la course.
Si tu avais un endroit mythique dans ta région où est-ce que les gens peut-être sont pas aux aguets de connaître c'est où, pour faire soit un entraînement ou d'aller du moins aller se promener pour faire une marche en sentier, quel endroit tu recommanderais?
Ce serait vraiment le sentier, je pense, Mestachibo, à Saint-Fériol. C'est un sentier que tout le monde, qui est très difficile, là, mais que tout le monde, c'est de toute beauté. Je peux pas décrire plus que ça. C'est vraiment de toute beauté.
Pour la prochaine année, je sais que tout le monde a parlé de la fameuse pandémie. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter?
Ce qu'on pourrait nous souhaiter, c'est qu'on soit vaccinés tous le plus vite possible, puis je le souhaite à tout le monde. Mais vraiment, moi, je vous souhaite en tout cas à tout le monde énormément de santé et faire attention à votre entourage parce que c'est ça, c'est vraiment la priorité, je pense, pour cette année.
Sinon, avec la petite famille, l'entourage et tout, je sais que t'es un homme avec beaucoup de passion et autres. Qu'est-ce que tu aimerais que ta fille et tes enfants puissent décrire de toi plus tard quand c'est eux qui vont peut-être... faire un petit medpod pour résumer un peu qui était leur père. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent pour décrire qui tu étais?
Ben, disons, au niveau sportif, ils le font déjà un peu, mais j'aimerais ça qu'ils se souviennent quand ils regardent le Mont-Saint-Anne que c'était là que se faisait la course à papa.
Ah, c'est très touchant. Puis, j'aimerais ça te dire merci aujourd'hui, Sébastien, d'avoir pris le temps de nous parler, donner un peu des trucs par rapport à l'organisation d'un événement sportif, voir un peu tout l'amour, tous les défis qui peuvent entourer l'organisation d'une course. Puis, comme je fais à l'habitude, je laisse toujours le mot de la fin à mon invité du jour. Donc, je te passe le micro, puis je te laisse le petit mot de conclusion.
Merci à toi, Julien, puis merci de drainer autant la course en hiver puis le sport hiver. Je voudrais juste souhaiter à tout le monde un bon retour à la normale en 2021. Moi, je suis quelqu'un de positif. Puis que les bonnes habitudes peut-être que vous avez prises en temps de pandémie pour garder la tête au-dessus de l'eau puis garder l'équilibre, que ça reste aussi, que ce soit pas juste le Purel qui va rester dans le futur ou des masques quand on est malade, mais qu'on garde nos bonnes habitudes de vie, que ça nous ait marqué puis que ce bien-être-là, il nous reste après ça, même quand on va pouvoir retourner dans les restaurants dans le futur.
Définitivement. Donc, tout le monde, c'était Sébastien Lachance. Je vais mettre les liens en direction de ces divers événements. Puis, je ne sais pas si tu avais un compte Instagram ou autre que tu voudrais que je plug également, mais je le ferai avec grand plaisir parce que je suis certain que vous allez avoir du plaisir à aller y participer parce que j'en ai eu, mes amis en ont eu également. C'est un événement à découvrir. Donc, merci tout le monde. Puis, on se revoit pour un prochain épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast du racketeur Mascoutin. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager. De même que si vous avez des questions, des commentaires, des sujets auxquels vous aimeriez que je porte attention, simplement me faire signe. Il va me faire un immense plaisir de répondre et de vous élucider ou d'éclairer par rapport à ça. À la prochaine tout le monde et au plaisir de vous rencontrer sur les sentiers.